Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Depuis une vingtaine d'années, on assiste au développement de l'instruction en famille, appelée aussi instruction à domicile, homeschooling ou encore au Québec l'apprentissage en famille. Alors que le phénomène ne concernait que quelques milliers d'enfants à la fin des années 90, le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. Et aujourd'hui, selon la Cour des comptes, après un pic des effectifs en 2021-2022, on estime à 30 600, soit 0,3% des enfants âgés de 3 à 6 ans, soit l'âge de la scolarisation obligatoire. Il faut souligner tout de suite que cette modalité d'instruction, et nous y reviendrons également, je pense, est parfaitement légale. Elle est inscrite dès la loi Ferry du 28 mars 1882, portant sur l'enseignement primaire obligatoire. Et elle est conforme à l'article L131 alinéa 2 du Code de l'éducation, qui autorise trois formes d'instruction en France, dans les établissements publics, dans les établissements privés ou libres, et dans la famille. Cette dernière modalité restée marginale, comme je le disais tout à l'heure, et l'institution scolaire, comme le législateur d'ailleurs, n'y prêtait pas beaucoup d'attention et la recherche elle-même ne s'y intéressait pas non plus vraiment. Depuis que le phénomène a pris de l'importance, les chercheurs et chercheuses, tels que nos deux invités, tentent de le comprendre et face à celui-ci, l'État cherche les moyens pour l'encadrer et contrôler une situation qui pourrait lui échapper. Au-delà de la mesure du phénomène, de son ampleur, nous pouvons nous demander aussi, du coup, qui sont ces enfants, ces élèves qui empruntent cette voie, pour quelles raisons ils se retrouvent scolarisés à un moment donné à la maison, combien de temps dure cette instruction dans la famille, et quels sont les âges, quelles sont les classes sociales concernées, voire les territoires concernés. D'autre part, il est important de se demander ce que cette instruction en famille dit du rapport de ces familles-là vis-à-vis d'école et plus largement à l'État, et donc de la légitimité de l'institution scolaire au regard de certains de nos concitoyens. Car cette liberté de choix des familles peut être aussi une forme de défiance, et elle existe, pas que, mais il y a aussi cette forme de défiance à l'égard de l'école. Et en parallèle, c'est peut-être le côté positif de la pièce, on peut aussi y voir une modalité ou une réponse en tout cas possible de l'institution pour prendre en charge des situations ou des demandes particulières qu'elle ne pourrait pas en prendre en charge en son sein, comme la maladie ou comme le handicap par exemple. Voilà autant de questions que nous souhaitons aborder aujourd'hui avec nos deux invités qui ont contribué à l'ouvrage collectif que coordonne Philippe Bongrand et qui vient d'être publié aux presses universitaires de Rennes sous le titre « L'instruction en famille en France » avec le sous-titre, et on reviendra peut-être sur chacun des mots, « Profil, mobile et pratique au tournant des années 2020 ». Et à commencer donc par Dominique Glassman, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes sociologue de l'éducation, professeur émérite à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vos enquêtes portent sur les liens entre le dedans et le dehors de l'école, donc là on sera plutôt dehors, et vous avez été un des maîtres d'œuvre de ce programme de recherche sur l'instruction dans les familles. Et Chloé Courteau, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes également sociologue, maîtresse de conférence à l'INSPE de l'Université Clermont-Auvergne et membre du laboratoire ACTE. Et vos travaux portent sur la scolarité des élèves en situation de handicap et vous avez contribué à cet ouvrage et à ce travail également. Et on écoutera, comme chaque mois, le focus qui est proposé aujourd'hui par Hugo Roussel, étudiant à l'ENS de Lyon.
Ça manque pas d'air. Avec Régis Guyon.
Pour Emmeline et ses trois filles, aujourd'hui c'est la rentrée à la maison. Comme d'autres parents, pas question cette année d'emmener ses enfants à l'école. Le contexte sanitaire est devenu trop contraignant.
Ma grande va rentrer au CP, elle va apprendre la lecture. Et avec un enseignant qui est masqué, la compréhension peut être compliquée pour l'enfant et la diction peut être compliquée aussi pour l'enseignant. Et pour mes petites qui rentrent en moyenne section, elles ont besoin d'avoir un visage référent.
Alors, 4 plus...
Sans activité depuis le confinement, Emmeline organise son emploi du temps autour de ses enfants. Addition, découverte des sons, la maman puise dans la méthode Montessori pour endosser son rôle de professeur.
En maternelle, ils font beaucoup d'activités manuelles et c'est des comptines, par le jeu. Voilà, donc on va beaucoup jouer et faire ce qu'ils font à l'école. J'ai aussi acheté pour ma fille qui rentre en CP un cahier qui reprend un petit peu tout ce qu'on peut faire dans l'année.
Alors Dominique Glassman, On vient d'entendre un extrait d'un journal de France 3 Nouvelle-Aquitaine du 2 septembre 2020. Donc, on est à la rentrée des classes de l'année scolaire 2020-21. On est à la suite au moment de la pandémie et de ce confinement et d'un moment un peu particulier qu'on a tous connu, qui était ce confinement et pour l'école, l'école à la maison. Donc, c'est une manière un peu détournée d'introduire le sujet. Mais je pense que pour que ça parle, c'est aussi un moment qui n'a rien à voir avec l'instruction et famille, et en même temps qu'à avoir avec l'instruction et famille.
En effet, un certain nombre de parents se sont trouvés en crainte devant la situation sanitaire, ont préféré ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Cela a effectivement représenté quelque chose de complètement nouveau pour eux, quelque chose qu'ils n'avaient pas choisi. Pour autant, on peut se demander, quelques années après, si, alors que le ministère a bien insisté, et sans doute a raison, sur le fait que les apprentissages devaient continuer, on peut se demander si les autorités publiques n'ont pas manqué une occasion de mettre à profit un peu cette expérience qui avait été accumulée depuis des années par un certain nombre de familles ou certaines associations qui avaient même formalisé, presque théorisé dans leurs revues internes la pratique de l'instruction en famille. Alors bien sûr, et vous l'avez dit, ça n'avait pas été choisi, on est dans un contexte tout à fait différent, néanmoins, on peut penser que pour certains aspects des choses, des familles en ayant l'expérience auraient pu, d'une manière ou d'une autre, transmettre à des familles contraintes et forcées de déscolariser leurs enfants ou de ne pas les scolariser pendant quelque temps, auraient pu leur transmettre un peu quelques, sinon des manières de faire, si au moins quelques précautions à prendre.
Et on retrouve dans cet extrait le fait que cette mère de famille prend en charge ou endosse le rôle de l'enseignant, le matériel, construit la classe à la maison. Donc, c'était aussi une expression qu'on pouvait utiliser à ce moment-là, où elle forme ses élèves au métier d'élève. Alors, peut-être que par rapport à vos travaux, Chloé Courtois, sur les familles dont les enfants restent à la maison pour des raisons médicales ou de handicap, il y a aussi ce parallèle qui peut exister.
Oui, on peut tout à fait faire une comparaison entre les familles qui choisissent ce mode d'instruction pour leurs enfants, qui peuvent parfois aller vers des formes de pédagogie dites alternatives. On entend dans cet extrait la maman qui parle de pédagogie Montessori et qui vont s'essayer à d'autres pratiques, pas forcément très courantes à l'école ou en tout cas que les enfants n'ont pas expérimenté dans le cadre scolaire. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des familles qui pratiquent l'instruction en famille pour des raisons de maladie ou de handicap. Dans ce cas-là, souvent, les enfants sont contraints d'être déscolarisés et ce n'est pas un choix des familles, ce n'est pas un choix éducatif, finalement. Et donc, les parents, dans ce cas-là, vont souvent reproduire le cadre scolaire, mais à la maison, et essayer d'avoir une forme scolaire à la fois dans l'espace, mais aussi dans l'esprit, à la fois de l'organisation du temps, mais aussi dans les pratiques. Et voilà, en cela, c'était différent. Et je pense qu'il y a eu cette double attitude pendant le Covid des familles qui ont essayé de reproduire l'école dans un cadre familial, et d'autres familles qui se sont essayées à d'autres méthodes, comme on entend avec cette maman.
Et ce qui est intéressant aussi sur cette période 2020, 21, 22, c'est qu'il y a eu un pic, comme je le disais en introduction, où dans mon souvenir, les chiffres, c'était autour de 70 000 enfants scolarisés à la maison. On est redescendu à un étiage qui était peut-être celui qui existait avant. Mais il y a eu je ne sais pas si on peut parler d'engouement ou de mode, mais en tout cas de cette tentative de certaines familles, de Glassman, de s'approprier cette instruction en famille, fort de cette expérience de la pandémie, qui n'a pas duré, mais...
C'est possible. Il est possible aussi qu'à l'inverse, certains nombres de parents se soient dit plus jamais ça. Parce que on propose parfois à la radio ou à la télévision de très très belles images de l'instruction en famille où on montre des enfants ou des adolescents qui grandissent dans un espace très bucolique, en pleine nature, avec une très très grande liberté. Et c'est très beau, ça existe. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la généralité de tout ça. Et certains parents qui ont pu se dire, tiens, pourquoi pas, se sont peut-être dit après, oulala, vivement que les enfants retournent à l'école, parce que finalement, c'est bien l'école. Et c'est pas à moi de me charger des enseignements. Il y a des professionnels qui savent faire. Moi, je sais pas faire. Je suis tout le temps en train de me poser des questions. Et puis, il faut aussi le dire, de fait, même si ce n'est pas agréable à dire quand on est quelqu'un de l'école, de fait, l'école sert de garderie. Je ne suis pas en train de dire l'école est une garderie.
Je sers qu'à ça.
Mais de fait,
elle libère les parents.
Elle libère aussi les parents de.
Et notamment les mamans.
Et en particulier, bien sûr. Mais des parents qui ont pu se dire à un moment, tiens, ça serait bien l'école en famille, après avoir goûté plutôt forcé et contraint, ont pu dire, bon ben voilà, la situation est redevenue normale, tant mieux. Mais il y a eu aussi une autre raison, c'est que c'est à ce moment-là aussi que a été votée la loi pour la défense des valeurs de la République, qui changeait le régime de l'instruction en famille en transformant le régime de déclaration en régime d'autorisation, et surtout qui changeait l'âge de l'instruction obligatoire. Jusqu'alors, c'était de 6 ans à 16 ans, et sous le ministère Blanquer, c'est devenu de 3 ans à 16 ans. Et donc, un certain nombre de tout petits bambins qui n'allaient pas à l'école, alors qu'ils auraient pu aller à la maternelle, mais ils n'y allaient pas, ils n'avaient pas du tout à être déclarés, se sont trouvés dans les registres de l'inspection académique, parce que là, ils avaient à être déclarés.
L'obligation d'aller à l'école, enfin de suivre l'instruction.
Ça a fait un gonflement artificiel des chiffres, en quelque sorte.
Alors, on y reviendra tout à l'heure avec le focus proposé par Hugo. Mais comment, enfin, la définition qu'on pourrait donner, simple et claire, de l'instruction dans la famille, ou en famille, pardon, parce que je sais que tous les mots, l'apprentissage, l'instruction, l'école, l'éducation, Chloé Courteau, comment on pourrait définir cette instruction, c'est le titre de l'ouvrage, l'instruction en famille.
Oui, effectivement, il y a des vocables très différents et je pense que tout le monde ne s'accorde pas sur une même expression, puisqu'il y a des pratiques différentes en fait, de l'instruction en famille. Certains parlent de unschooling quand il n'y a pas d'apprentissage formel, d'autres d'instruction en famille. Parfois, c'est l'instruction à la maison, mais l'instruction à la maison a aussi été débattue parce que parfois, en fait, il y a vraiment des réunions de famille en dehors de l'école, en fait, pour concrétiser des apprentissages collectivement.
Ça devient une école, pour le coup, quand il y a une réunion.
Alors, c'est pas forcément aussi formalisé qu'une institution scolaire. Ça peut être parfois sur des temps très courts, de manière peu ritualisée, etc. Mais il peut y avoir une recherche de collectif, et notamment à travers les associations, certaines familles se regroupent pour éviter l'isolement à la fois des enfants et aussi des parents pour pouvoir échanger sur ces pratiques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait finalement une forme d'instruction en famille et je pense qu'on peut découvrir une sorte de variété de pratiques. Il faut aussi noter qu'il y a l'instruction en famille qui peut être faite par le CNED, qui peut être assistée, on va dire, par le CNED. Et là encore, il peut y avoir différentes formes. Il peut y avoir le CNED réglementé. Dans le cas des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, on pense souvent aux enfants malades, aux enfants avec une phobie scolaire, par exemple. Et dans ce cas-là, ils ont une autorisation pour suivre en fait, leur scolarité via le CNED. Et puis, il y a le CNED non réglementé. Dans ce cas-là, c'est le choix des familles, qui payent cette forme de scolarisation. Et
de suivi.
Ouais, de programme, de suivi.
Pardon, Dominique Glassman.
Le travail que nous avons fait, donc dans ce gros ouvrage, concerne uniquement l'instruction en famille qui ne passe pas par le CNED réglementé. Les enfants qui sont instruits par le CNED réglementé mériteraient une étude à eux tout seuls. Nous, on s'est tenus à l'instruction en famille, au sens on déclare qu'on va faire l'instruction en famille, on n'a pas de soutien du CNED particulier. Au fond, le CNED réglementé, c'est l'école qui va jusqu'au bout de l'idée d'instruction obligatoire. Même les enfants malades, même les enfants handicapés, mais aussi même les enfants qui ont une pratique artistique ou sportive de très haut niveau, ont le droit à l'école et l'institution scolaire se donne les moyens de proposer cette instruction. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de l'instruction en famille selon diverses modalités que Chloé vient de rappeler. J'ajouterai juste une chose. Dans le terme instruction en famille, certains nombres de familles disent, au fond, on tient à ce mot parce que dans l'instruction en famille, il n'y a pas que les enfants qui s'instruisent, il y a nous aussi. Et comme nous, parents, nous essayons de répondre aux demandes de nos enfants, soucieux que nous sommes de leur rythme d'apprentissage, de leur centre d'intérêt, eh bien, pour répondre à leurs questions, quelquefois nous sommes obligés de nous instruire nous-mêmes sur certains sujets que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, le mouvement des planètes, me disait une mère, j'y connais rien. J'ai dû lire là-dessus, etc., etc.
Alors, l'ouvrage dont on parle depuis tout à l'heure, la somme que les presses universitaires de Rennes ont publiée est liée à un programme de recherche, ou en tout cas à un collectif de chercheurs, chercheuses, et un programme de recherche financé par l'ANR, donc sociographie inédite de l'instruction en famille. Voilà, c'est 10-15 ans de travail, on peut dire ça comme ça, Dominique Lasman ?
Oui, certainement. Alors, pas forcément 10-15 ans pour chacun ou chacune des auteurs ou des autrices de ce livre, mais effectivement, je crois que...
Pour vous, comme pour Philippe Bongrand, ça a été...
C'est clair que voilà. Philippe Bongrand a été le premier à s'engager dans cette voie. Je l'ai rejoint pas très très longtemps après, et puis Philippe a su intéresser, susciter des recherches, rassembler des gens, alors des petits groupes ou tout un groupe qui finalement s'est constitué, et on s'est retrouvés dans des réunions, on était plus d'une quinzaine à échanger là-dessus.
Voilà. Une des questions moi, qui m'intéresse, c'est de connaître les sources en fait, du travail scientifique sur un sujet comme celui-là. Parce qu'on imagine qu'il doit y avoir des données un peu statistiques, quand même, qui existent plus ou moins accessibles. Et puis, il y a ce qui a été souligné depuis tout à l'heure, les familles elles-mêmes qui vous racontent ou qui partagent leur expérience. Donc, comment on travaille sur ce sujet-là, Chloé Courteau ?
Oui, ce qui est déjà difficile, c'est que finalement, c'est un sujet qui était vraiment traité au moment où on le traite, c'est-à-dire avant le Covid, qui n'était pas un sujet mis à l'agenda politique réellement. Et donc, qui n'était pas une grande préoccupation des institutions. Et donc, finalement, les choses étaient assez floues aussi. Il n'y avait pas forcément de listes très établies, de statistiques très, très posées, très construites. Dominique parlera peut-être mieux des statistiques autour de cette question-là. Mais du coup, pour travailler sur ce sujet-là, moi, je me suis plutôt tournée vers les réseaux sociaux, en fait. Parce que c'était un lieu d'expression pour les familles, pour raconter leur expérience, pour échanger sur cette modalité d'instruction-là, pour exprimer leurs droits, etc. Et donc, je me suis plutôt tournée vers les groupes Facebook, notamment, pour rencontrer les familles et pouvoir, du coup, échanger avec elles sur cette thématique. Et c'est des familles qui étaient souvent très soucieuses de raconter leur expérience et parfois d'aller au-delà des stéréotypes et de raconter...
Donc avec des formes d'engagement ou de militantisme par rapport à cette question-là ? Ou pas nécessairement ?
Pas nécessairement. Moi, je rencontre beaucoup de familles dont les enfants sont en instruction en famille pour des raisons de handicap. Mmh. Et dans ce cas-là, les familles ne sont pas très engagées, très militantes. Comme je vous le disais, c'est souvent un dernier recours et ils n'ont pas choisi ça. Et donc, ces familles vont surtout se mobiliser pour essayer de faire en sorte que l'instruction soit la plus efficace possible pour l'enfant, mais elles ne militent pas dans le sens de cette instruction. Et même, elles ont plutôt la volonté que leur enfant retourne dans le système scolaire assez rapidement. Donc,
Dominique Lasman ?
C'est la même chose pour les familles que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pour la plupart, très grande majorité, elles ne sont pas du tout prosélytes. Et plusieurs m'ont dit, on ne souhaite pas que tout le monde fasse de l'instruction en famille. Nous, ça nous correspond et on a de bonnes raisons de penser que c'est bien. Mais on va pas, tout le monde va pas le faire. Voilà. Et effectivement, on rencontre des familles qui acceptent volontiers de nous rencontrer. Probablement parce que, et Chloé vient de le dire, on y va avec des raisons de recherche. Alors même qu'il y a encore une quinzaine d'années, quand on lisait des choses sur l'instruction en famille, dans la presse, dans des revues, ou qu'on voyait des émissions à la télévision, il y avait quand même soit un côté un peu hagiographique, regardez comme c'est beau, c'est des enfants, oh, si l'école pouvait être comme ça, si le monde entier pouvait être comme ça. Donc c'était c'était sans doute très flatteur, mais pas très très enrichissant, ou à l'inverse, il y avait des articles qui étaient extrêmement critiques.
Oui, avec les formes de défiance dont je parlais tout à l'heure.
Et là, le fait qu'on dise aux familles, je pense que Chloé a fait la même chose en contactant les familles qu'elle a rencontrées, je ne cherche pas à dire que c'est bien, à dire que c'est mal, je cherche à comprendre, à voir pourquoi vous le faites, comment vous le faites, etc. Et je sais que j'ai toujours été reçu de façon très, très ouverte. par les parents qui pouvaient dire des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais ça n'a aucun intérêt, ce que je pense. Ce qui a intérêt, c'est ce que eux ils pensent, pourquoi ils font, comment évolue leur pratique, etc.
Et est-ce que dans la compréhension du phénomène, il y a aussi le regard de l'institution, les données publiques, enfin ce que disent la statistique, etc. Est-ce que ça, c'est pas aussi un point important aussi de la recherche ?
Disons, c'est un point tout à fait important, parce que une des difficultés quand on fait des enquêtes auprès des familles, c'est que on a beau multiplier les cas, on va rencontrer 35 familles, 50 familles, il y en a 80, il y en a aucun dans le bouquin qui a rencontré 80 familles, mais le nombre est forcément limité. Et quand, sur l'ensemble de la population scolarisable en France, il y a 30 000 gamins, on peut se dire, qui
l'échantillon est peut-être un peu limité.
Voilà, l'échantillon est limité. Et en plus, l'échantillon est...
Incomplet.
Incomplet et biaisé, parce qu'on rencontre des gens qui sont rencontrables. C'est-à-dire des gens qui, d'une certaine façon, bénéficient d'une certaine visibilité à travers leurs associations, à travers ceci ou cela, ce qui n'est pas le cas de tous. Or, ce ne sont pas les mêmes pratiques qui sont mises en œuvre par les gens que l'on peut rencontrer facilement et celles qui sont mises en œuvre par des gens qui font ça de façon beaucoup plus discrète, certes, qui sont déclarés à l'instruction académique, mais qui, en quelque sorte, ne font pas de bruit, ne s'expriment pas dans les associations, ne manifestent pas quand l'instruction en famille se trouve menacée. Alors, justement, il faut donc, pour cela, passer par des données qui sont des données administratives, qui permettent d'avoir un peu une vue statistique un peu plus solide de la chose. Nous avons trouvé dans certaines administrations un accueil extrêmement, extrêmement ouvert par des responsables ou par des agents de bureau qui étaient tout à fait convaincus de l'idée que ça valait le coup de chercher un peu là-dessus. Parfois, ça a été un tout petit peu plus lourd. On a demandé, puis redemandé, et on est revenu à la charge. Je ne sais pas combien de fois Philippe Bongrand, qui a coordonné cet ouvrage, est revenu à la charge auprès de la DGESCO pour obtenir des données. Mais bref, globalement, on a pu quand même obtenir des données. Et bien entendu, ces données, ce sont soit des données chiffrées déjà constituées par le ministère, soit des données qui sont dans les dossiers de l'inspection académique, dossiers qui sont établis, qui sont constitués à des fins de gestion d'une population soumise à l'instruction obligatoire, et qui ne sont pas des dossiers de recherche. Et donc nous avons dû opérer une transformation de ces dossiers de gestion en dossiers de recherche. Par exemple, pour faire des décomptes, je donne tout un petit exemple, parce que ce que je viens de dire peut paraître un petit peu abscon. Quand il y a une faute d'orthographe dans un nom, l'administration locale sait très bien qu'il y a une faute d'orthographe, mais c'est la même famille. Pour la recherche, ça sera deux familles. Donc, ça ferait compter autrement les choses, et il faut vraiment transformer ces fichiers en fichiers de recherche. Mais à partir de cela, on dispose d'un matériau extrêmement, extrêmement riche.
Alors, on va enchaîner avec le focus proposé par Hugo, où on reviendra peut-être ensuite sur cette histoire de données et de sources, notamment à la suite de la loi de 2021, dont on a déjà parlé rapidement. Hugo.
Le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron prononça au Mureaux, commune des Yvelines, un discours affirmant la volonté étatique de lutter contre les séparatismes. À 2 ans des élections présidentielles, ce discours entendait à la fois réaffirmer des principes républicains de laïcité et d'unité de la nation, tout en posant comme problème structurel le séparatisme islamiste et les risques de radicalisation qui l'accompagnent. Écoutons un extrait du discours.
Et donc l'école est notre trésor collectif. C'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce commun qu'est la République. Or là aussi, nous avons vu des dérives, nous voyons des contournements et nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année. Chaque semaine, des recteurs et des rectrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets, car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux.
Ce qui a été reproché à ce discours, outre le risque de reconduire les amalgames entre islam et radicalisation, c'est le lien de causalité sous-entendu entre instruction en famille et radicalisation. En effet, de manière implicite, Emmanuel Macron sous-entend ou donne l'occasion de supposer que les 50 000 enfants instruits en famille seraient susceptibles d'être concernés par la radicalisation. Et la manière qu'il a de présenter la situation donne le sentiment d'un phénomène de masse et en rapide augmentation. Il ne précise par exemple pas que ces 50 000 enfants représentent en réalité à peine 0,4% des enfants en âge d'être instruits, ni qu'ils le sont pour une courte durée dans la majorité des cas. Il ne précise pas non plus que cette augmentation est en partie liée à l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire en 2019 de 6 à 3 ans. Ce discours était cependant l'occasion d'annoncer la proposition à venir d'une loi pour l'automne 2021 ayant pour objectif de conforter le respect des principes de la République. Le discours d'Emmanuel Macron préfigurait alors clairement de la volonté de renforcer plus encore les dispositifs de contrôle encadrant l'instruction en famille.
Et cette volonté d'encadrement de l'instruction en famille, donc, date-t-elle uniquement des années 2020 ?
Non, elle a été le fruit d'un processus qu'on pourrait faire débuter à la fin du 19e siècle. En effet, la loi de 1882 relative à l'obligation de l'instruction primaire posait déjà les premiers jalons de l'encadrement de l'instruction dans les familles. Cette inscription dans la loi des différentes modalités d'enseignement permises par l'État était déjà en soi un dispositif d'encadrement. Et dès sa promulgation, la loi de 1882 prévoyait des outils ayant pour objectif de contrôler les conséquences acquises par les enfants. S'il peut paraître étonnant qu'une telle liberté ait été donnée aux familles dans un contexte d'affirmation de la Troisième République, la contradiction s'explique par le peu d'enfants concernés et qui provenaient essentiellement de familles très aisées. Mais après ce texte fondateur de 1882, on ne dénombre presque plus aucun texte réglementaire sur l'instruction dans les familles, si ce n'est une loi de 1936 prévoyant les modalités d'une enquête de mairie, renouvelée tous les 2 ans, visant à s'assurer des conditions de vie de la famille et de la compatibilité de l'instruction en famille avec l'état de santé de l'enfant. C'est seulement à partir de la fin des années 1990 que tout s'accélère. 1998, 2005, 2017, puis 2019, une série de lois est venue préciser, renforcer l'encadrement de l'instruction en famille pour y inclure davantage de dispositifs de contrôle. Hiérarchiquement délégitimées vis-à-vis de l'instruction à l'école, ces différentes lois ont également conduit à une première stigmatisation de l'instruction en famille, la loi 1998 étant principalement centrée dans son argumentaire sur la lutte contre les dérives sectaires. Il n'en demeure pas moins, au fil de cette période, une certaine tension entre liberté laissée aux parents, dans les méthodes et les enseignements qu'ils mettent en place, et volonté de donner aux enfants une éducation jugée correcte.
Mais comment l'État statue-t-il du caractère correct de cette éducation ?
Ce jugement repose sur 2 modalités. Une enquête sociale réalisée auprès de la municipalité et un contrôle pédagogique donné par un inspecteur de l'éducation nationale. L'objectif pour les inspecteurs est d'évaluer si l'enfant maîtrisera, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun. Plus spécifiquement, les inspecteurs, depuis la fin des années 90, sont tenus de porter un jugement de normalité éducative ayant pour objectif de repérer les situations de mise en danger de l'enfant et d'embrigadement sectaire. Mais faute de temps et de moyens, les inspecteurs ne peuvent se contenter que d'indices sociaux perçus lors de la visite annuelle. Ces jugements de normalité éducative et pédagogique, qui n'explicitent pas nécessairement et précisément leur démarche, sont révélateurs du rapport qu'entretient une administration avec ses administrés. Un rapport fortement ambigu.
Ambigu ?
Oui, mais le discours d'Emmanuel Macron d'octobre 2020 et la loi d'août 2021 tendent à résoudre de plus en plus cette contradiction. Si jusqu'en 2021, l'instruction en famille était simplement déclarative, la loi de 2021 la soumet à une autorisation préalable, mettant sur le devant de la scène la question des motifs, poussant les parents à s'occuper eux-mêmes de l'instruction de leur enfant. Et si Emmanuel Macron sous-entend un lien de causalité entre radicalisation et instruction en famille, la recherche sur ce sujet ne permet pas de l'affirmer.
Alors on voit le glissement législatif et voilà ce tour sur le XXe siècle depuis la loi de 1882 que ça se resserre un tout petit peu et de plus en plus autour des familles avec cette volonté d'un contrôle. Alors Pour aller vite, comment cette loi de 2021 change-t-elle la donne de votre point de vue, Chloé Courteau ? Peut-être que pour les familles auxquelles vous intéressez, ça change peut-être pas grand-chose, en fait.
Ce qu'il faut rappeler, je pense, c'est que dès 1882, c'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'instruction à l'école. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que les familles s'inscrivent et elles se plaisent à le rappeler régulièrement, en fait. C'est-à-dire, on respecte cette loi républicaine d'instruction de nos enfants et c'est justement ça qui est contrôlé. Petit à petit, en fait, les contrôles s'intensifient et les agents publics s'intéressent à la question de l'instruction en famille, notamment vis-à-vis du fait religieux. Et je pense que c'est à travers ce prisme-là, en fait, que la question...
Est-ce que Hugo soulignait, je pense qu'il pourrait le rappeler mieux que moi, mais autour de la crainte, enfin, de tout ce qui tourne autour des dérives sectaires.
Tout à fait, des dérives sectaires, des radicalisations, etc. Donc c'est autour de ce prisme-là, en fait, que l'instruction en famille revient sur le devant de la scène politique et donc devient un objet de crainte et de méfiance vis-à-vis des familles. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, que la loi de 2021 s'inscrit et vise à un contrôle plus précis de l'instruction en famille et de l'inscription en fait de l'enfant dans ce cadre-là.
D'ailleurs, les familles ont fait des recours sur cette loi, Dominique Glassmann, auprès du Conseil constitutionnel notamment.
Oui, et en particulier, comme des familles se sont vues refuser l'autorisation de l'instruction en famille, alors que jusqu'à présent, elles avaient été autorisées. Enfin, on a eu un certain nombre de contentieux, soit qui sont passés en justice, je ne le sais pas combien il y en a eu, et puis on a pu le lire aussi, soit dans la presse, soit dans les revues des associations. Mais si vous permettez, je voudrais revenir un instant sur l'intervention du président de la République et sur les effets que ça a eu. Le président de la République est totalement dans son rôle quand il appelle à la vigilance, quand il rappelle que l'école est un lieu, en particulier en France, central pour la construction de la vie collective et même l'intégration des principes dans la République. Ça n'est pas choquant, ce qui a pu choquer un certain nombre de gens, et pas simplement des chercheurs, surtout des familles impliquées, c'est que ce qui a été dit a été perçu comme un amalgame.
Comme le soulignait Hugo.
Voilà. Et donc, on a le sentiment, en lisant ses propos dans le contexte de l'époque, que l'instruction en famille va fabriquer des radicalisés qui vont devenir des terroristes, mais on oublie de dire à l'époque, on pourrait le dire encore maintenant, que ceux qui ont été les auteurs d'attentats, ils sont tous passés par l'école publique. On ne va quand même pas accuser l'école publique de former des radicalisés. Sauf à considérer que l'expérience non seulement scolaire, mais aussi l'expérience sociale de ces jeunes, les a conduits à des extrémités inacceptables. Mais voilà, c'est ce qui a été, ce qui n'a pas plu dans les propos d'Emmanuel Macron, alors même que a priori, il n'était pas hors de son rôle de rappeler à la fonction de l'école. Et ce qui est un peu dommage, c'est que, et là, Hugo l'a mentionné, c'est que, au fond, après, dès que des parents musulmans choisissent l'instruction en famille, oulala, il y a une suspicion de... Ils vont mettre leurs enfants en dehors de la République.
Comme pour les écoles privées, hors contrat.
Voilà, voilà. Mais sans que... Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des familles qui, pour des raisons religieuses, alors que ce soit islam ou chrétienne, d'ailleurs, j'en ai rencontré, choisissent l'instruction en famille par opposition aux valeurs de l'école de la République. C'est vrai, il y en a, mais on est un peu obnubilé par ça, en oubliant que pour un certain nombre de familles musulmanes, entre autres, puisqu'elles sont visées par cela, le choix de l'instruction en famille, c'est pas d'abord ou avant tout un choix religieux, c'est un choix d'éducation, et non pas un choix d'éducation parce qu'on voudrait une éducation strictement religieuse en laissant complètement de côté un certain nombre de disciplines comme les sciences naturelles, etc. Mais ça peut être aussi une insatisfaction profonde par rapport à l'école et à l'école publique qui, aux yeux de ses parents, ne tient pas ses promesses. Il y a des parents musulmans qui trouvent que l'école n'est pas assez rigoureuse dans ses exigences morales ou parfois ses exigences de niveau par rapport à leurs enfants parce qu'ils seraient d'origine étrangère.
Chloé Courteau.
Oui, puisqu'il fait réagir aussi avec cette loi de 2020, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ne se retrouvent pas en fait dans les explications de cette instruction en famille et qui expliquent qu'il y a d'autres choix très nombreux à vouloir faire de l'instruction en famille et qui ne sont pas des choix religieux. C'est d'ailleurs très souvent dans les familles que l'on rencontre des choix de méthode éducative, de temps, donner du temps à l'enfant, ne pas avoir un autre rythme que le rythme scolaire. Bref, il y a une multitude de mobiles, comme on le dit dans le sous-titre du livre, qui fait que cette loi a semblé, pour des familles et des associations de familles, ne pas répondre du tout à leur réalité.
Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé encore, c'est ce passage par l'instruction en famille, qui n'est pas une carrière scolaire, alors sauf situation dont sur lesquelles on reviendra peut-être aussi avec Chloé Courteau, mais de Glassman, finalement, combien de temps, en moyenne, un enfant reste-t-il instruit en famille? On pourra revenir sur les raisons, mais je pense qu'on a déjà discuté de ça. Mais
pour à peu près sur une période de 10 ans, par exemple, quand on voit les enfants ou les adolescents qui ont été instruits en famille, à peu près la moitié sont restés un an ou moins en instruction en famille. Les deux tiers environ sont restés 2 ans ou moins en instruction en famille. Autrement dit, la majorité des jeunes qui passent en instruction en famille restent relativement peu de temps. Alors, attention, il est important que cette réalité statistique ne vienne pas cacher la forêt. C'est-à-dire qu'à l'autre bout du spectre, on pourrait dire statistique, il y a des enfants et des adolescents qui restent toute leur période d'instruction obligatoire en instruction en famille, parfois même au-delà de la période d'instruction obligatoire, puisque à l'âge du lycée, où l'instruction n'est plus obligatoire et donc ils ne sont plus déclarés, ils sont encore en instruction en famille. Or, il ne faudrait pas que ces enfants, ces jeunes soient oubliés, parce que c'est souvent dans leur famille que s'inventent des pratiques pédagogiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles de l'école, qui n'ont pas non plus grand-chose à voir avec celles des enfants qui restent 1 ou 2 ans en instruction en famille. Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont 8-10 ans en instruction en famille, c'est souvent là qu'on a des pratiques éducatives, des pratiques entre guillemets scolaires, et qui ne sont pas du tout scolaires, mais parfois aussi au-delà des pratiques de vie, en termes de consommation, en termes d'accès à la santé, qui sont en dehors du mainstream, c'est-à-dire du courant principal. Et il se passe des choses intéressantes là-dedans, avec lesquels on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qui se passe des choses et qui mérite d'être comprises. Alors que dans les familles qui restent moins, qui mettent moins longtemps leurs enfants en instruction en famille, il y a beaucoup plus le souci de retrouver une solution, répondre à des besoins de l'enfant qui ne sont pas satisfaits à l'école, etc.
Et Chloé Courteau, je pense avoir noté l'expression que je trouve très intéressante de désengagement fidèle. Et je trouve que c'est intéressant de voir les choses qui sont en fait en aller-retour comme ça. Il y a un désengagement, mais qui est quand même fidèle à l'école avec la volonté de reprendre pied dans l'école.
Oui, c'est ce qu'on montre à travers les témoignages de familles dont les enfants sont en situation de handicap. Souvent, l'instruction en famille arrive comme une situation qui s'impose à eux parce que le système scolaire ne peut pas répondre à un moment aux besoins de l'enfant. Mais ces familles-là n'ont pas du tout l'intention de poursuivre cette instruction en famille sur le long terme. Et donc, c'est l'idée
parenthèse.
De désengagement fidèle, c'est qu'ils sont fidèles à la forme scolaire et à l'envie que leur enfant soit réinclus dans le système scolaire et qu'il vive une scolarité ordinaire. Et donc, finalement, c'est des familles qui vont pallier à l'institution scolaire pendant un temps court, pendant une parenthèse, et qui vont faire en sorte, en fait, que leur enfant puisse re-rentrer dans l'école le plus rapidement possible. Donc, c'est aussi des carrières en instruction en famille qui sont relativement courtes, finalement.
Voilà. Juste, c'est pareil, c'est plutôt des enfants d'âge élémentaire plutôt que des plus grands. Quel âge se situe le gros de l'effectif qui reste à la maison pour suivre l'école? Est-ce que c'est l'entrée au collège? Est-ce que c'est... Voilà, quel moment se situe ce point qui a peut-être un point un peu de tension lié à la fréquentation de l'école?
Les 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais si je vous réponds comme ça, je simplifie les choses parce que ce n'est pas la même chose pour les garçons et pour les filles. Les garçons rentrent plus tôt en instruction en famille et les filles un peu plus tard. Donc elles pèsent un peu plus du côté du temps de l'adolescence alors que les garçons pèsent un peu plus dans l'âge enfantin. Voilà. Avec de surcroît le fait que les raisons que donnent les parents ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Les filles, c'est beaucoup sur des raisons pédagogiques, etc. Et les garçons, c'est plus pour des raisons de mal-être à l'école, etc. Voilà.
Et finalement, est-ce que cette instruction en famille, on pourrait conclure autour de ça, est-ce que c'est pas une manière de regarder ou de renforcer l'importance que l'école a pour tout un chacun, et que ce passage par la maison n'est que un palliatif à un moment donné nécessaire, mais que finalement, pour la majorité d'entre eux, c'est pour ça qu'on parlait de militantisme au tout début, et vous m'avez répondu que ce n'était pas le cas, il n'y avait pas de prosélytisme autour de ça, mais qu'il y ait un passage obligé, plus ou moins subi, mais qui renforce quelque part la place centrale que l'école peut occuper dans la société française. Est-ce qu'on peut aussi le dire comme ça? Ou est-ce que c'est un peu exagéré?
Non, on peut le dire comme ça, mais je gage que certains militants des associations d'instruction en famille diraient que vous trouvez un moyen de ramener la couverture sur l'école.
Alors mettons-la à la bonne hauteur, alors, la couverture.
Mais ça, comment ? Ça peut être vrai au sens où, dans toute société, quel que soit le phénomène, ce qui se passe en marge dit quelque chose de ce qui se passe au centre. À la fois dans les raisons pour lesquelles il se passe des choses en marge, dans la manière dont ce qui se passe dans la marge se déroule, etc., ça dit quelque chose du centre. Bien sûr, mais on pourrait dire que ça concerne aussi la santé, des gens qui ne se vaccinent pas, sans entrer dans les théories complotistes, etc. Il y a des gens qui ont de bonnes raisons, entre guillemets, de ne pas se vacciner, et de bonnes raisons, selon eux, de ne pas avoir complètement confiance dans la médecine établie. Ça nous dit quelque chose, la médecine établie. Ça ne nous dit pas forcément que des choses justes. Et ce que disent les gens, que les parents instructeurs en famille, ce qu'ils disent de l'école, parfois on peut s'y retrouver, parfois on ne s'y retrouve absolument pas, mais notre boulot, c'est pas de donner notre avis. Notre boulot, c'est de savoir pourquoi et comment les gens font ce qu'ils font.
Oui, ça nous donne une image du rapport à l'État de ces familles-là et de la manière dont elles s'emparent. Elles ont des représentations des institutions et notamment de l'école et de l'État français.
Bien, merci à tous les deux pour cet échange qu'on prolongera avec dans la prochaine émission sur l'enseignement privé. On verra s'il y a des parallèles qui existent sur le caractère propre ou les situations propres des enfants et de ces établissements. Donc un grand merci à vous deux, Dominique Glassmann et Chloé Courteau, pour cet échange. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée en collaboration avec Hugo Roussel, étudiant à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en mars pour une émission donc consacrée à l'enseignement privé. Vous pouvez retrouver ce podcast, comme tous ceux de Cadécole, sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.